bonjour et bienvenue pour la suite de notre podcast Making Off. Il est 11h53, le studio B est peint, c'est un tout petit studio, je veux dire, hein. c'est un peu la roue de secours, et le A en fait a été repeint, les odeurs sont pas trop présentes, et apparemment le studio est fonctionnel, donc finalement on va se servir du A, et on recable tout, mais vraiment en catastrophe. Donc là, vous êtes dans mon oreille. Ce que vous allez entendre pendant 2 fois 74 minutes, c'est ce qui se passe dans le casque côté régie. Alors là, en plus, c'est un peu la cata parce qu'il faut que je recable tout. Je ne vous dis pas le merdier, c'est encore plus ce stress que d'habitude, surtout que j'ai dû revenir chez moi en catastrophe pour récupérer le générique soigneusement enregistré. Je l'avais oublié chez moi, c'est pas normal, c'est un peu stupide. Voilà, le niveau sonore était trop fort, l'équalisation était touchée par les animateurs habituels et ils l'ont pas réglé proprement. Et on va essayer les micros les uns après les autres. Rouge. Du coup
rouge.
Merci. Voilà, au cas où, je sais pas si JB va passer tout à l'heure.
Mais
nah. T'es sûr?
Non, je sais pas.
Tu peux m'essayer le verre, s'il te plaît?
Le verre, le micro. Verre, je te prie.
Quoique, pour ce qu'a dire JB d'habitude, hein. C'est... Mais bon, je voudrais pas qu'il prenne prétexte que... Ah, mais en fait, j'ai préparé quelque chose. Alors je vais vous faire écouter un petit truc, c'est voici ce qui passe en ce moment en direct, et ensuite je vais vous passer le décalé de l'antenne. Parce qu'avant, quand on parlait, on avait le son qui était immédiatement diffusé, ça c'était la magie de l'analogique. Avec le numérique, on est obligé de traiter le son dans le temps, c'est ce qu'on appelle faire une compression en MP3 ou en Ogvorbis, ou en AAC, c'est à votre choix, pour mettre le son. Je crois que ma clé elle est à côté. Alors voici ce qui passe à l'antenne. Et voici ce que passe l'antenne. Alors attention, je vais vous faire. Vous avez entendu, il y a environ 5 secondes de décalé. Or, des fois, je suis obligé d'écouter ce qui se passe à l'antenne pour savoir si le son est bien fait, tout en parlant. Alors, quand c'est juste un petit écho, comme on avait en analogique, ça va, c'est pas trop désagréable. Mais quand c'est un décalé, c'est-à-dire que vous parlez et ce que vous venez de dire arrive 30 millisecondes après, ça passe encore. Mais 2 secondes après, c'est intenable. C'est une horreur. Donc, je vais chercher une clé qui me manque parce qu'on commence le direct dans 3 minutes. Je viens de chercher en fait la clé USB dans l'autre micro, dans l'autre studio. C'est hyper stressant. Et en fait, les trois quarts des gags ne sont plus préparés dans l'émission. Dans l'émission. Avant, ils étaient préparés. Oui, tu disais, Duce. Tu peux me tester le micro, tape dessus. Ah putain, ça fait du bien. Tape ton micro, fais-moi un test. Ok, c'est le bon. En fait, d'habitude, on préparait les gags avant et puis on a un peu arrêté. Et là, je voudrais que Thomas lâche son iPhone et écoute bien ce que je vais lui dire.
Oui.
Quand je vais parler, je reprends en disant, juste après le générique, c'est pas écrit, hein. J'adore ton logo en perspective. Et toi, tu me réponds, tu fais super bien les maquettes. Oui. En référence à Cosmos 1999, ok. Tu vas t'en souvenir d'ici 5 minutes. Oui, t'es pas comme moi, attends.
Bon, effectivement, il faut protéger parce que je viens de racler avec l'ongle un bout de peinture qui était semi-fraîche. Et
dessous, c'est...
Et dessous, évidemment.
Ouais.
Donc désolé Sylvain, désolé Kinou, qui viennent de refaire la peinture du studio et tout. Mais c'est nickel, hein. C'est un plateau, c'est quasi neuf, on se croirait à la télé tellement que c'est brillant.
Alors, t'as du publisher aujourd'hui?
Ouais, le Marvel Saga. Ouais.
Ah, alors, ça, c'est War Journal, ça.
Supplément week-end.
Dans le prochain épisode, tout le monde sur le...
Voilà, là, j'ai calé mon truc. Il faut que je déplie.
Alors, le mec qui joue Punisher, c'est un total inconnu. Alors, Tentator, il te dira quelque chose, j'ai pas retenu le nom. Et le seul qui soit un peu connu, qui m'évoque quelque chose, c'est le méchant, c'est le gars qui faisait l'enculé dans 300. C'est le prêtre qui couche
on
avec
pas,
la
On n'est pas à l'antenne, tu peux dire les gros mots. Hein.
Mais il n'y a pas vraiment de gars connu dedans, en fait.
Et bien, le film ?
Le Punisher ?
Non, Vengeance.
Ouais, il est pas
mal. Parlait sur nos lives d'erreurs de casting monstrueuses. Oh putain, il y a de la peinture sur la régie.
C'est pas. Ouais. J'en parle dans ma chronique de toute façon.
Tu vois, ça j'en doute pas. 11h59, on prend dans une minute.
Et donc là, ça c'est la suite de l'interview de Wong ou c'est le premier.
Ouais, mais en fait c'est la deuxième partie, mais c'est fait 2 ans après ou 3 ans après.
Peinture vraiment trop fraîche, pas les CD dessus. Pas les CD.
Ah merde, bon. C'est un scandale.
Pas les CD sur le...
C'est un scandale, monsieur Kamache.
Oh putain, il y a des CD qui commencent déjà à couler.
Ah ouais.
Bon.
On va sortir du journaux. Attends. Alors, en même temps, on va leur massacrer là. Hop. Hop, ça y est, je les ai.
Oh, c'est des merdes.
Moi, faire un truc propre, tu rêves ? Midi pile, on est à la bourre, Thomas. On va même pas répéter ni rien, on se lance à la bonne franquette, comme d'hab. Zouf, je mets l'antenne, voilà. Alors dites-vous bien qu'après, pendant l'émission, pendant que moi je vais lire mes chroniques, Thomas et du sport vont se passer le SoFoot ou les cahiers du foot, des trucs comme ça. C'est vachement agréable, je vous jure, c'est vachement agréable quand on est en train de préparer.
Et pas du tout, on va discuter du 4-4-2.
Ouais, aussi. Encore une BD le 4-4-2, si encore c'était 421, tu parles.
Allez !
Tu me dis quand c'est bon.
A priori, là, on devrait être bon. Ils me font un fond sonore en intro. Attends, parce que là, on part un peu vite. Là.
C'est un côté Vicage de Rosso, un peu. Hein.
Lounge. C'est les CD que j'ai pré-écouté tout à l'heure, que je vais mettre sur le CD2, qui est le plus pénible de tous. Hop.
Oui, je sais, c'est le son d'un talenté et venir, vous allez voir, c'est tout le temps comme ça, en fait, dans mon oreille. C'est très stressant. Alors, si vous écoutez au casque, vous allez voir que c'est vraiment insupportable. Time. Allez. Oh, putain. J'ai pas le temps restant. À chaque fois, c'est pénible. Attention, hop, on y va, il y a eu un jingle, je crois, à l'antenne. Hein.
De FMR.
Ça, attention Thomas, tu reprends.
Radio FMR 89.1.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 23 mai 2009. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai. Et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici le soap de science-fiction que vous attendez tous.
Précédent. Voilà, et là, on a coupé les micros.
Dans le prochain épisode, tout le monde sur le pont pour le Galaxy Express 199.
Bah ouais.
Si ouais. Tu veux. Pourquoi ? Ce sera un spécial match photo ?
Non, mais c'était juste parce que je cherchais une finale.
Ah.
Pour mettre 199.
Et donc la deux.
FMR présente. Supplément week-end 199. Le magazine des cultures geek. We'll be right back.
ciné, DVD, TV, baston. Avec du sport, Ultimatum, Das Kritsch et la participation exceptionnelle de JB. Samedi 23 mai 2009. Dans cet épisode, plongé dans la secte, Groom vert de gris, vengeance en cuisine, punishing.
Il est vraiment super ton logo en perspective, j'aime beaucoup.
Hein. Ouais, ouais.
Ça rend méga bien.
Hein. Bah toi, ta maquette est vachement bien.
Ouais, c'est du Euler, j'aime beaucoup.
D'accord.
Et franchement, le studio blanc immaculé, manière station lunaire Moon Alpha, là, c'est nickel. Hein.
Bon, avec un gros monolithe noir au milieu, c'est nous.
C'est nous, voilà. Et juste les éclairages, ils sont pas montés là. Je sais pas ce qu'ils foutent dans les studios là, mais. L'éclairagiste a mal fait son boulot, ça fait bizarre avec la lumière à très ras de sol.
Bah bon. Ouais, ça fait un peu résistance.
Bonjour et bienvenue, c'est le supplément week-end 199. La semaine prochaine, c'est la 200e.
Et déjà.
Qui l'eût cru. On est, selon mes calculs, on est toujours le plus vieux podcast francophone encore en activité. En plus d'être une émission de radio qui termine sa 5e saison, donc j'en suis pas mécontent pour vous. Qui m'avait supporté et qui m'avait, je vais dire, soutenu.
Tu t'adresses à nous, aux auditeurs ?
À vous ?
Ah.
Non, non, du sport, lui, s'en fiche. Lui, il a son t-shirt Made in Hong Kong et tout. Pff, c'est nickel. Et puis en plus, il y a le
désolé,
studio qui refait point 9.
Je suis désolé, j'ai pas de t-shirt de Johnny.
Ah oui, non, c'est clair. Évidemment, c'est un gros piège pour tous ceux qui n'ont pas la couleur, mais vous en saurez plus en allant sur le site supplementweekend.fr avec des making-of de cette émission et de celle d'après, de la 200e, samedi prochain, sur lequel ça va être un méga bordel que l'on va leur laisser. On est horrible, hein. Ceci dit, donc, on vous a donné le programme tout à l'heure de ce qu'il y aura. Dans les news, outre qu'il fait pas super beau, etc., aujourd'hui, que tout à l'heure on fait une ch'tite fête entre nous, il y a de la suite dans les aventures d'Astérix. Je ne sais pas si vous souvenez, on vous avait parlé d'un bis-bis entre le gendre de Albert Uderzo, le dessinateur d'Astérix, et Albert Uderzo lui-même, à tel point que le père a licencié sa fille de sa maison d'édition. Ça s'est plus ou moins fait proprement, qu'en même temps il était question de rumeurs comme quoi il allait vendre à Hachette la structure éditrice d'Astérix. C'est pas qu'une rumeur, apparemment ça a eu lieu. Et apparemment, ben, au prud'homme, Uderzo a perdu.
Il a perdu contre son gendre Bernard de Choisy et sa fille.
Donc apparemment, il y a plusieurs événements en cascade qui vont se passer, puisque très probablement, sa fille va demander à avoir le contrat de cession des parts de Albert Uderzo et de Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, qui, lui, repose en paix, pour pouvoir éventuellement contester après cette cession. On va voir ce qui va en être.
Oui, c'était une grosse affaire. Il faut dire aussi qu'il y a Uderzo qui avait offert un exemplaire de la couverture de Astérix, Le Rose et le Glaive, que Bernard Choisy, par vengeance, a vendu ensuite.
C'était un cadeau de mariage. Bernard de Choisy l'a vendu après avoir été viré une première fois.
Voilà, ensuite, il y a les disques durs et les PC des deux tourtereaux qui ont été confisqués. Enfin, c'était une grosse affaire d'État.
Par la police, attention. Hein.
Ouais.
On ne rigole plus, là, c'est du judiciaire pur jus. Ce qui fait que c'est les 50 ans d'Astérix. Quand même, hein, en octobre.
Eh oui, petit Gaulois.
Et inutile de dire qu'ils respectent la tradition de la bagarre sur la place devant ordre alphabétique. Sympa, quoi. faut battre le fer tant qu'il est chaud.
Le poisson est toujours pas frais.
Ouais. Oui, ben voilà, on s'est croisés dans les répliques. Enfin bref, vous voyez l'ambiance. Hein. Voilà, et là je viens de monter le son tout simplement parce que je suis en train de préparer en fait le fond sonore de ce qui va avoir lieu. Alors je regarde mon planning parce que je me suis pas franchement relu. D'abord j'ai Spirou. Donc comment ça, attends, t'étais pas en PFE, t'étais pas en pré-écoute, Thomas. Comment ça, bon?
Oui, je.
Oui, là on est out.
Je précisais. Est-ce que pour une fois tu t'es pas relu?
Un peu comme d'hab. Non, mais là en plus un petit peu en catastie quand même. J'ai bien relu et j'ai fait relire surtout dans la secte pour éviter les conneries. Voilà. Oui, ok, le CD est prêt à être lancé, il est prêt à starter. Je vais monter le truc, ça a démarré tout seul. Oui, tu disais.
Car ami auditeur, sachez que Xavier se corrige lui-même en direct.
Au stylo rouge, je corrige mes textes pour après la publication sur le blog. C'est pas une rumeur, c'est vrai.
Ne faites pas ça chez vous.
Voilà, je suis en train de noter ce que je suis en train de passer. Donc voilà, track 5 de Red Snapper pour Spirou, ce que je suis en train de caler. Et après, dans la secte, Amon Tobin. Tac, 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 qui est en train d'aller dangereusement sur la peinture fraîche. Voilà, et l'ennui, c'est qu'il va falloir faire une transition entre-temps. Voilà, hop, on repart. Samedi 23 mai 2009, le supplément week-end est parti dans l'espace. Coucou à Macha dans l'espace d'ailleurs, vieux programme que j'aimais bien. On espère qu'on va rediffuser sur le web. Il est midi et 10 minutes et on va entamer les sorties bande dessinée avec un truc qui était très attendu, c'était une suite. Eh ben non, c'est pas vraiment une suite. Petit aparté, vous allez m'entendre tout à l'heure. Ah, ça sonne. Non, laisse tomber, c'est le facteur. C'est sûrement le facteur. Vous allez m'entendre tout à l'heure, je vais parler et en même temps, je vais mettre en R. C'est parce que je vais pré-écouter ce qui se passe dans le casque. Yann au scénario, Olivier Schwartz au dessin. Une aventure de Spirou et Fantasio, le groom vert de gris. C'est sorti depuis environ 15 jours aux éditions Dupuis. C'est sorti depuis environ 15 jours à Bruxelles en 1942 sous le joug des nazis. Spirou est toujours groom à l'hôtel Moustique. Mais ce dernier a été réquisitionné pour être le QG des forces occupantes. Voilà Spirou passé d'une livrée en rouge à une livrée vert de gris. Couleur bleu de Prusse. Fantasio est toujours journaliste, enfin façon de dire, avec l'interdiction de la plupart des quotidiens. Il se retrouvait embauché dans le journal Le Soir, qui a été volé par les Allemands, avec comme fonction archiviste. Qu'avait vu vieux papier, mais il s'est trouvé une marotte, inventer des machines incongrues, plein de machines complètement délirantes. Et voilà, je viens de me rendre compte que j'ai fait une faute. C'est grâce à l'une de ces machines bricolées par un Fantasio qui prépare un peu, je vais dire, le futur Gaston Lagaffe, qui peut encore faire tourner sa voiture pimpée, d'une manière improbable. Ou encore qu'il barbouille les murs de Bruxelles de mots rageurs contre les Allemands. Ah, les Boschen. Mais de cette période trouble, le groom, au surnom d'écureuil, est quand même espiègle. Préparant un coup en douce, celui d'échapper à la très belle mais très collante officier Chicken Gruber, une femme magnifique, toute almanique et arienne, et surtout au gradé. Trouver à manger aussi, même si sa position de groom dans un hôtel officiel lui donne accès à quelques petits avantages en nature. Mais surtout ne pas souiller son âme d'enfant de la Belgique. Belgique libre, fière. Et puis voilà. Allez, non. Je vais arrêter de spoiler. On va pas en dire plus sur ce bouquin. Suite au succès critique, mais surtout commercial du journal d'un ingénu, Dupuis avait décidé de casser le principe de leur collection, une aventure de Spirou par, et puis un dessinateur, en proposant d'en faire une suite. Oui, sauf que cet album, s'il en est la continuité du journal d'un ingénu, n'en est pas totalement la suite. En fait, le scénariste Yann en veut terriblement à Émile Bravo de lui avoir piqué l'idée du Spirou groom sous l'occupation qu'il avait imaginé avec le regretté Yves Chaland. Des planches qui sont parues dans Les Inachevés de Chaland, ce qui remonte à 1988. La question semblait même être très sensible dans les différentes interviews de Yann à ce sujet. Et là maintenant, hop, je fais une petite manip, zou, j'éjecte le CD pour préparer la suite. Le dessinateur Schwartz, s'était illustré en dessinant, désolé, humour, dans les années 1980, les aventures de l'inspecteur Bayard. héros de la revue Astrapi, mais surtout fortement teinté de la ligne claire d'Hergé, des débuts de Franquin et de Jigé. C'était plutôt flagrant. Schwartz avait donc de sérieuses qualités pour se rapprocher de l'idée dessinée par Chaland qu'aurait copié Émile Bravo. Dans les surprises, le nombre de clins d'yeux à Hergé que l'on voit chiner sur les marchés pour préparer sa saga sur Rackham, Rackham le Rouge et Spirou sous les mers, je vais dire, parce que le nom ne revient pas dans l'immédiat, le trésor de Rackham le Rouge, voilà, et à son œuvre. D'ailleurs, on voit Kiké Fluc, on voit Josette, sans Joko, Joko qui est le chimpanzé, jusqu'à faire figurer Raymond Leblanc, futur fondateur des éditions du Lombard et du journal de Tintin, l'ennemi juré de l'équipe du Puy. Dans le Bruxelles occupé, on y retrouve les principales préoccupations des habitants, mais aussi l'émergence des Azous, ces jeunes insouciants qui préféraient danser, se vêtir de manière extravagante, plutôt que de maugréer contre l'occupant nazi. Et le Bruxelleur, l'accent, l'argot typique de cette enclave francophone en pays flamand. L'immense travail de documentation et reconstitution historique des auteurs se marie étonnamment bien avec l'intention graphique des auteurs. Car la dernière surprise, c'est une très bonne idée de Yann, c'est de raccrocher ce Spirou à celui de Franquin. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'album, les références graphiques, scénaristiques, mais aussi le comportement des personnages se rapprochent de plus en plus, se devient de plus en plus présent par rapport, ben, je vais dire, à l'histoire conçue par Franquin. Et ça, eh ben, c'est un bonheur immense. L'histoire se termine par une introduction de la première histoire complète dessinée par Franquin. Je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être que vous en souvenez, pour ceux qui l'ont lu. Même si l'effet de surprise est passé, le bonheur est toujours présent. Une aventure de Spirou et Fantasio, le Groom Vert de Gris, donc qui n'est pas une suite, mais qui aurait été plus ou moins piratée par le journal d'un ingénu. Mais les deux se complètent parfaitement. Scénario Yann, dessin Olivier Schwartz. C'est chez Dupuis dans la collection Une aventure de Spirou. Par. Changement d'ambiance, on va vers le meilleur des mondes, vers un endroit où on est zen et tout ça, mais l'enfer se cache parfois derrière. Pierre, Henri et Louis Alloin, cherchez pas ces deux pseudonymes, vous allez comprendre aisément pourquoi. Dans la secte, c'est dans la collection Contre-Cœur aux éditions La Boîte à Bulles. Des mouvements suspectés de dérives sectaires actuellement en activité entre Raël, les Rosicruciens et autres naturopathes ou néo-religieux. L'église de Scientologie est unanimement considérée comme la plus dangereuse car la plus influente. Ses stars, son budget pharaonesque et sa mythologie soigneusement travaillée pour essorer un maximum d'argent de chacune de ses victimes. Elle tient à la fois de l'inquiétant et du mystère, avec la plupart des témoignages tués par ses avocats. La parole de ses victimes est donc plutôt rare, qui a envie d'avouer qu'il a été suffisamment naïf pour se faire piéger, qui a envie de se battre face à des bataillons d'avocats, qui a envie de continuer à subir des menaces anonymes. Voir face à la promesse d'un remboursement, qui a envie de continuer un combat qui a déjà été fortement épuisant. Basé sur l'œuvre de l'écrivain Ron Hubbard, une flopée d'écrits plus ou moins disponibles au grand public, un système d'échelons internes servant à la fois de garant d'un grand secret et d'autorité militaire, et d'un alibi pseudo-scientifique afin d'avoir en façade une cohérence plutôt forte et permettant de convaincre les futures victimes. L'église de Scientologie est classée organisation dangereuse en Allemagne, comme secte en France et poursuivie dans plusieurs pays dont la Belgique pour pratique illégale de la médecine et escroquerie en bande organisée. Même aux États-Unis, où elle est plutôt respectée, de récentes poursuites déposées par les ex-scientologues l'accusent de trafic humain et d'avortement forcé. D'après le témoignage de personnes qui en ont fait partie, l'église de Scientologie tiendrait à la fois d'organisation machiavélique dans sa mécanique d'enrôlement, dans son fonctionnement interne par son système de progression dit « voie vers la liberté totale » basé sur des échelons, mais aussi pour faire taire toute voix discordante partant ou provenant de l'extérieur. Par exemple en attaquant les psychiatres, des professionnels qui sont capables de diagnostiquer si un individu est victime de techniques de manipulation mentale. Elle tente de décrédibiliser une profession médicale, scientifique, la mieux placée pour mettre en garde contre ces pratiques supposées. Alors ne croyez pas que les techniques soient anodines. La scientologie, via une de ses officines, une de ses associations, distribuerait actuellement en France auprès de médecins et de députés des DVD dénonçant les méfaits de la psychiatrie. Et cette organisation soutiendrait, via ses associations, plusieurs thèses qui mettraient en cause la psychiatrie comme responsable du massacre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, responsable de l'Holocauste. Un tel effort doit avoir une raison. Pendant ce temps-là, la mission de la Miliwud, la mission interministérielle de lutte et de vigilance envers les mouvements sectaires, est actuellement minimisée par le ministère de l'Intérieur quand elle ne se fait pas activement attaquer par des instances européennes qui semblent avoir été noyautées par certains intérêts, se faisant accuser d'entrave à la liberté de religion. Heureusement que l'on a tous le droit de choisir une religion. Mais une croyance ne doit pas devenir un lavage de cerveau, une industrie de l'exploitation de la misère affective. L'église de la Scientologie vient de se faire condamner pour escroquerie en bande organisée, justement, jugement que bien évidemment elle vient de faire appel. Le rapport du juge Fenech, président de la Miliwud, vient de sortir il y a 2 jours, au moment de cette émission. Mais ce n'est pas ce genre de littérature que je chronique aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bande dessinée qui est sortie il y a 4 ans. C'est le témoignage de Marion. Marion travaille dans une importante boîte de pub parisienne. Saturée de travail, stressée, pratiquement pas de vie amoureuse et prenant de la drogue pour avoir le sentiment de faire la fête en soirée. Un ex de Marion va revenir dans sa vie et lui parler d'une nouvelle philosophie religieuse qui pourrait lui changer sa vie. C'est exactement ce qui va lui arriver, mais pas exactement dans le sens qu'elle croit. Elle va entrer dans un petit cercle. D'abord s'amuser pour embrasser les croisants, les croyances, d'avoir des amis très bien intentionnés pour finalement partir en stage de motivation à Copenhague. Sans un sou, travaillant pour une misère, dans des conditions particulièrement dangereuses, tenue dans un état de fatigue physique pour mieux accepter ce qu'on lui enseigne au nom de sa nouvelle religion, dans une ville dont elle ne parle pas la langue, coupée de ses amis, de sa famille, bref, totalement déracinée. Prête à accepter n'importe quoi. L'histoire aurait pu finir très mal. Le témoignage de Marion, l'église de Scientologie l'a acheté en lui promettant de lui rembourser 70 000 francs, à peu près la somme qu'elle a dépensée à l'époque dans cette organisation, contre l'abandon des poursuites qu'elle a initiées pour escroquerie. Néanmoins, 10 ans après, cette histoire l'a hantée encore et elle a accepté d'en parler aux auteurs de cet album. Une bande dessinée qui a été passée attentivement au filtre des avocats pour éviter tout procès, tout comme le texte de cette chronique. Un ouvrage préfacé par Catherine Picard, présidente de l'ADFI, que je vous recommande, et je m'en fiche si Thomas va me faire la gueule parce qu'après ça on n'aura plus jamais l'occasion d'interviewer John Travolta ou Tom Cruise.
Oui merde, on avait un créneau là dans un mois, merde. Fais chier Xavier.
Pierre-Henri Louis Allon dans la secte, dans la collection Contre-Cœur, c'est chez la boîte à bulles, et une partie du texte de cette chronique a été écrite grâce au site web prevensecte.com, dont on mettra le lien dans la chronique. Voilà, alors bien évidemment, une fois de plus, j'ai été complètement j'utilisé, mais du sport, lui, il l'équipe. Thomas, il lit SoFoot, c'est super agréable. Je vous jure, c'était pas SoFoot qui lisait, c'était l'équipe mag. Super agréable, vous voyez, quand on lit, que personne n'écoute, je déteste mes co-animateurs pour ça, c'est insupportable, hein, c'est à chier, quoi. Oui, regrette ton micro, fais comme si... Tu l'as, au fait, l'interruption musicale, là, sur les azous? Ou non? L'interruption musicale dont je t'avais parlé tout à l'heure au téléphone. Hein.
Tu m'as, de quoi?
Sur une musique Zazou. Oh. Ou tu l'as pas pris? Je vais enchaîner avec Portiched sinon. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des fonds sonores qui durent un certain temps. C'est parce que tout simplement...
The Bird Story 1944-1994. Alors il faut que je note.
Je refais une annonce. 0.9.1 MHz, vous écoutez le supplément week-end. Hop, voilà. On est obligé de faire une annonce tous les quarts d'heure, en fait. Je te laisse l'annoncer. Alors, il se trouve que dans le Spirou que j'ai chroniqué, ah, vous l'avez peut-être pas vu, est peut-être encore dans mon sac.
On n'a rien vu de ce que t'as chroniqué.
Non, mais il les cache.
Oui, oui.
Parce qu'il a peur. Il y a des références très précises au mouvement Zazou, qui est en fait, ben, c'est la musique de variété au moment de l'occupation. Le morceau que tu vas passer, c'est...
Ouais, enfin bon, c'est pas tellement ça. Hein. Je veux dire, c'est le mouvement d'une jeunesse qui ne se reconnaît pas dans les valeurs de leurs parents. Hein, ça, on a vu de tout temps. Et l'original, le mouvement Zazou original, c'est plutôt le mouvement qui a été initié par les Chicanos avant-guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, du côté ouest des États-Unis, c'est-à-dire du côté de Los Angeles.
Et déjà à l'époque,
dont on a des extraits dans le film Sans Rémission dont je vous ai parlé la dernière fois, d'Edward James Olmos. On parle également des Zazou dans le film de Spike Lee, Malcolm X d'ailleurs, hein, qui se passe à la même époque, où on a également la confrontation entre les différentes ethnies, à savoir les Chicanos, les Blacks et tout ça. Et bon, c'est lié plus à un mouvement vestimentaire, on va dire, et à l'écoute d'un certain style de musique. Et après, bon, bah, quand ça franchit les océans, que ça vient en France et tout, on est déjà après-guerre, hein, on est déjà, la guerre vient de se finir et tout. Puis bon, ok, hein, c'est les périodes 45-50. Et c'est également la découverte du jazz pour pas mal de jeunes, hein, initiés par quelques grands fanas, tels que le fana numéro 1 qui est également
Zazou
et trompettiste à ses heures, à savoir Boris Vian.
Bien, voilà.
Là, on écoute un petit morceau de cette époque-là, hein, c'est Lionel Hampton.
Flying Home.
Avec Oscar Peterson, Raymond et Buddy Rich à la batterie. Alors là, Lionel Hampton, il est au vibraphone comme d'habitude. Il faut savoir qu'il a commencé sa carrière dans les années 20 comme batteur, c'est ça. Hein.
D'accord, on en reparlera après. J'adore, ça change un peu l'ambiance, je trouve. Là, c'est un peu perturbant parce qu'on n'a pas de retour studio, en fait, puisque l'ampli a été passé dans le studio à côté. Non, il est branché sur l'autre régie. Donc, on n'a pas de retour. Là, je peux mettre du son. Ah si, il y en a ? Ah, bouf ! Ah oui, bon, ça va mieux.
Non, mais il raconte n'importe quoi.
J'ai pas testé, voilà. On enchaîne. Alors là, du coup, je suppose qu'il te faut le générique Ciné Hong Kong, quoi.
Ah bah ouais, hein. Obligé.
Punisher ? D'accord, comme ça tu relances après ce morceau, tu expliques un peu si tu veux. Tu auras l'occasion. Merde. Putain, et ça change de l'ambiance du supplément habituel. Après un générique qui a tout cartonné.
Oui, j'aime bien, il fait ça juste pour son podcast et... Comme par hasard, c'est le podcast.
Bah vous aurez,
il a des chroniques qui font une page et demie.
Non, mais j'ai expliqué que c'était vraiment exceptionnel. Bon, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Voilà, c'est ce qui se passe en fait. Alors, sujet, souvent, il y a les discussions qui continuent sur les bouquins. Et franchement, le verre de gris, c'est étonnant. C'est là où tu te dis que Émile Bravo, en fait, il a piqué à Chaland. Tu verras ça, c'est impressionnant.
Bon, sinon, Laurent Blanc, donc c'est le titre alors cette année Marseille, est-ce que Marseille va se faire taper ou non ? Si on nous attend sur le podcast, si tu veux, on peut parler de la venue de Wilkinson à Toulon. Hein.
Non, il reste une minute, mais tu peux essayer pour voir. Je vais couper ta pré-écoute. Bah,
Mais oui, est-ce qu'il reste au TFC ou non ?
40 Tu sais qu'on t'entend pas si t'es trop loin du mic. Hein.
C'est bon.
30
Plus il sera proche de Marseille, moins c'est bon.
Bah si Chamac se barre, il va aller à Bordeaux.
Le support du CD,
non.
Ouais, ça change. Ça fait du bien. Et là, on va passer à tout à fait autre chose. Oui, et voilà, JB est arrivé. On fait un petit résumé pour JB. Donc voilà, donc ça a piqué à Chaland et à Émile Bravo à Pompée. Et petit précis de manipulation mentale. Tu vas voir, c'est génial. Mais de suite, on enchaîne.
Ça pègue un peu.
Surtout
là,
qu'il faut qu'ils sachent, c'est que c'est, le studio vient d'être repeint, donc colle. Il faut que tu mettes des journaux pour pas coller.
Ne touche à rien, j'ai bien compris. Et il est vachement beau ce studio, surtout la lampe en plein milieu.
Voilà, oui. Et sachant qu'on a fait un générique Cosmos 1999 du sport, lui, il en était à de la vengeance pure, brute et précise.
Ouais, il est sous vengeance aujourd'hui.
Punisher,
ouais, là, c'est, là l'histoire, en fait, n'est pas tellement une histoire de vengeance. Hein, parce que
voilà, JB vient d'arriver en studio, en fait.
Des répliques, à un moment dans l'exemplaire de ce Marvel Saga que j'ai entre les mains, c'est des répliques où...
Et là, en fait, je suis en train de précaler le générique suivant pour Thomas.
Les gens qui ont tué tes parents, ton histoire de vengeance, puis tu as tué les responsables, puis tu as tué les patrons des responsables, puis tu as tout tué les grands patrons des responsables, ont été... à l'origine de la mort de...
Maintenant, je recalibre un peu le direct.
Mort de ta femme, de ta famille et tout. Maintenant, tu continues, c'est pas normal. Qu'est-ce qui t'arrive?
Je remonte un petit peu le niveau, le fond sonore.
Une aventure, c'est la suite. C'est là, on est déjà le Punisher War Journal. Et où il avait quelques sérieux problèmes, toujours pourchassés, bien entendu, par l'ensemble de la police. Par quelques autres super vilains qui sont pas mécontents de temps en temps de se dire si je peux me faire le Punisher, ça me fera une bonne carte de visite. Mais non, là, dans ce cas, eh bien, Punisher...
Fred du sport est en train de me regarder en train de parler, alors que je vous parle. Et surtout que JB et Thomas sont en train de discuter avec Forcing et tout le reste. Thomas, de quoi vous... Voilà, l'ennui, c'est que j'ai mis Thomas en pré-écoute, donc du coup, ça a coupé le truc.
On dégomme les méchants parce qu'ils ont commis quelque chose de mal, donc c'est normal, quoi, c'est la justice expéditive. Là, ok,
moi, j'appelle ça plus que la justice, hein, c'est loi, juge et bourreau.
Ouais, non, mais bon, voilà, hein, là...
Voilà, une vanne passée au hasard, voilà, pour faire croire que je vais suivre.
À deux moments dans l'histoire, on se dit putain, ça y est,
pauvre Duce.
Ils l'ont dégommé, il est mort, il a dégagé et tout. Hein, comme on sait que c'est une histoire qui va avoir une fin et tout, on se dit putain, ça y est, ok, il n'y a plus rien et tout.
Oui, parce qu'il faut savoir sur le Punisher, c'est que c'est un gars qui a aucun super pouvoir et il est juste protégé par du Kevlar. C'est
voilà,
tout,
c'est tout. Hein, c'est
oui,
tout.
C'est un justicier.
Bon, il est super souple et tout, donc il arrive à éviter les balles. Mais enfin,
ouais, mais
bon,
mais il est butable.
Mais il
ouais,
est butable.
Comme Batman.
Et bon, à un moment, quand il se fait coincer la tête dans les ports de métro et tout, que le métro démarre, tu dis. Bon bah ok, puis je clanque, case noire, tu dis ah bon d'accord, il y a plus rien. Ben non, ça repart pour un tour et tout. Mais il se fait quand même capturer par les keufs et tout, quoi. Mais les keufs qui vont lui assigner une mission très très spéciale.
Tu vas t'infiltrer dans une prison et tu vas tenir 20 ans, c'est
non,
ça
non, 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 pas du tout.
Perpète. J'ai mon micro qui tient pas, c'est un petit peu l'aura. Je suis obligé de me remplacer. Comme tout est frais, il faut que je fasse attention où je me pose les mains et les vêtements.
Une espèce d'armure un petit peu sophistiquée avec plein de petits gadgets qui vont avec. Mais parce que bah justement, Punisher l'aurait soi-disant, lui aurait caché quelque chose de très important. Lui aurait copine qui est morte et décédée. Et ça se termine, petite copine qui est morte et décédée. Et ça se termine par où Frank Castle, bah justement, on va le faire sortir de tôle pour qu'il puisse buter du bon Skrull et surtout un super Skrull qui les fait chier pendant pratiquement tout un épisode là, mais qui est hyper résistant.
Ça y est, alors du sport là, il est parti sur les Skrulls, il va en parler pendant des heures. Ça, c'est... Faudrait que je lui demande gentiment de résumer peut-être. Ah, il a terminé.
Uniquement consacré au Punisher, et c'est qui signe d'ailleurs la fin de la collaboration de Mac Fraction avec le dessinateur, je vais le retrouver vite fait, de Mac Fraction avec Howard Chaykin en ce qui concerne le Punisher, parce que Mac Fraction il repart sur les X-Men, je crois, hein, et donc
j'ai fait signe à JB, en fait là on est un petit peu en antenne. Ça va bien JB?
Oui, ça va, et toi?
Donc en fait, il faut expliquer que JB, à chaque fois, lui, il sort de bureau à midi et tu es obligé de galoper pour venir. Là, en fait, t'es arrivé un peu exceptionnellement tôt, si je puis dire, en galopant, t'es un petit peu essoufflé.
Oui, il n'y a eu personne aujourd'hui et donc j'ai pris le premier vélo dès que je pouvais.
Voilà, normalement, il ne faut pas courir avant de faire une émission, sinon on est essoufflé. Or, c'est malheureusement ce que j'ai fait juste avant l'antenne, parce que j'avais oublié ma clé. Voilà, Thomas du sport est en train de terminer. On reprend JB revient à sa place.
De, en vente dans tous les bons kiosques et dans toutes les bonnes librairies.
Merci du sport. On reste dans les cadres d'une vengeance. Tranquillement.
Oui. Ouais.
Ouais. Cool. Ça va chier.
Allez, c'est parti.
Antilo, John Moe, Gordon Chan, Jean Yunfat, Stéphane.
Et ma foi, c'est un film d'un fort beau gabarit avec un excellent Johnny, on ne sait pas lequel est
oui,
excellent.
Ici à Macao, aïe, Johnny est arrivé, donc il s'agit de vent.
Il s'agit bien évidemment d'un gag en impro là. Hein.
Et Anthony Wong,
ouais. Ouais.
L'âme suette,
ouais.
Simon Yam,
yeah.
Et Sylvie Testu.
Oh. Ouais, mais elle crève dans le film, non hein. Elle crève dans le film.
Elle est salement à la moche sa mère.
À la moche, bah.
Voilà, là encore, c'était un pro.
On la voit pas beaucoup. Là,
ouais.
C'est ça qui est ta question. Alors, c'est méchant. Frank Costello, c'est un ancien tueur à gages français devenu cuisinier qui se rend à Macao pour éliminer les assassins de la famille de sa fille, elle-même paralysée. Il se lie d'amitié avec trois tueurs à gages qui l'engagent pour l'aider à se venger, mais Costello est atteint d'une maladie. Une balle logée quelques années plus tôt dans son cerveau lui fait perdre la mémoire. Réussira-t-il à garder sa lucidité pour maintenir sa quête de vengeance intacte? Alors,
ah.
Alors oui, alors, bizarrement, je me suis demandé si j'allais en parler pendant la chronique, vu que ça n'a pas du tout été mentionné dans les,
quand les, dans les dossiers de presse et tout le
film.
Reste. Ouais.
Voilà. Bon, il faut quand même en parler parce que sinon je parle que de la première moitié du film et puis bon, c'est un peu chaud de parler de ça. Alors si je vous dis Johnny Hallyday qui fait pour se rappeler des faits des polaroïdes des gens en marquant au feutre noir dessus les
Memento.
Trucs.
Memento.
Voilà. C'est Memento à Hong Kong, à Macao et à Hong Kong. Alors bon, alors Johnny, ben j'avais vu une phrase assez pas mal sur
assez la, pas mal
assez
pas mal,
mal ouais. À la télé par un chroniqueur cinéma sur Canal+, qui disait que effectivement les spectateurs qui voulaient rire de Johnny en allant voir le film ont ri de Johnny, et ceux qui voulaient lui laisser une chance lui ont effectivement laissé une chance. Tu peux te retrouver dans les deux. Bon, Johnny, on peut dire ce qu'on veut avec les pubs qui tournent et tout, mais c'est vrai que il a quand même un putain de facile. La musique à papa ou à qui même. Bon, faut quand
non,
même...
c'est du rock and roll.
Rock and roll. Et il faut dire que.
Alors là, ce que vous avez entendu, le gros cloc, c'est que j'ai dû débrancher, rebrancher une partie de mon câblage. En temps réel, c'est pas bon.
Est-ce que Johnny ici.
J'ai une cassette.
Ah, une cassette, bon, ça va.
Quand même, attends. Ouais.
Alors, Johnny a quand même un facette super magnétique. Alors.
Oh oui, il Johnny... y a qu'à voir toutes les femmes qu'il attire à lui.
Qu'il a quoi?
Désolé. Voilà.
Merci Michel.
Oui.
Au revoir.
Et donc, bon alors, compte tenu du fait qu'ici on adore les acteurs asiatiques et en particulier Anthony Wong, et compte tenu de leurs rôles respectifs dans le film, il faut dire que chaque fois que Johnny est seul à l'écran, enfin pas entouré de ces monstres sacrés, c'est quand même électrisant et tu te dis putain de Johnny, ouais, ça le fait. Quand il est à côté des gars comme Anthony Wong, il se fait un peu voler la vedette, faut quand même l'avouer. Alors voilà, avec toutes les réserves que j'ai dit au début, bon voilà, c'est que Johnny, dans le film, c'est un peu un paquet, un peu encombrant, mais attachant. C'est-à-dire que c'est un mec qui parle pas la langue, il sait pas, il est un peu dépassé par ce qui se passe. Il vient juste pour louer les services de trois tueurs à gages. Donc ce sont surtout les tueurs à gages qui sont mis en avant dans une première partie, c'est eux qui vont faire l'enquête. Johnny va être un peu derrière et tout. Alors c'est vrai que le rôle de Johnny fait qu'il est un peu à l'écart. Mais par contre, il faut dire quand même qu'Anthony Wong est sacrément excellent dedans. Et c'est vrai que un petit peu le jeu entre les deux, t'as une amitié naissante avec les personnages dans le film. Mais c'est vrai que Anthony Wong quand même est assez excellent dans le film et relègue un petit peu notre Johnny National au second plan. Bon, après, c'est voilà.
Voilà,
je viens de recalibrer le fond sonore de Thomas. C'était pas nickel. Hein.
Un sacré partage d'affiches avec quand même des gars qui ont quand même pas mal roulé leur boss, chacun dans leur genre, et rien que pour ça, le film vaut le détour. Johnito, bon, on va un peu parler de lui. Bon, on a beaucoup chroniqué de films ici pour une bonne raison, c'est que d'abord on aime ses films et ensuite il est extrêmement prolifique. Alors Johnito, son concept, c'est que il fait pas mal de polars urbains et il va s'attacher à chaque fois à un petit détail, il va se focaliser sur un détail, il va l'étirer, il va un peu bazarder tout le reste, tout ce qui fait un peu les accessoires. Il va se focaliser sur un concept assez fort et il va l'étirer, il va essayer de l'exploiter jusqu'à la moelle, et ça te fait toujours des polars un peu décalés, un peu à l'atmosphère irréelle, et tu te dis... À chaque fois, ça flirte avec le vide et à chaque fois, ça l'évite. C'est que ce sont des polars un peu en apesanteur. Bon, c'est pas Matrix. Apesanteur, une autre apesanteur. Donc voilà, c'était un peu le concept du détective un peu fou qui parvenait à déceler les personnalités chez les malfrats. Allez hop, on fait un film d'1h30 où on exploite ce concept. Un flic dans un Hong Kong désert de nuit, il perd son flingue. On va faire un film d'1h30 dessus, et à chaque fois que ça fonctionne grave. Et là, voilà, c'est un cuisinier français qui débarque en Asie, il comprend pas la langue, il sait juste qu'il doit se venger. Et au fur et à mesure, voilà, il y a l'amitié naissante avec les tueurs. Le concept est archi revu avec la vengeance, avec toujours l'inévitable Simon Yam qui est l'infâme boss qui se retourne contre ses hommes. Mais à chaque fois, c'est toujours le même truc. On a l'équipe de The Mission et d'Exilé qui est reconstituée en partie avec Anthony Wong dans le même rôle et l'âme suède dans le même rôle, c'est-à-dire le spécialiste en armes, et l'autre c'est un peu le boss qui décide de tout avec l'oreillette. Et le mec, il aura fait 50 fois ce rôle là, mais bon, il est toujours aussi excellent dedans. T'as des scènes qui sont absolument excellentes où justement c'est, tu vois, c'est un peu à la John Woo, c'est une affaire d'homme mais avec du cœur derrière. Donc t'as, il commence à lier amitié autour d'un bon plat de pâtes, et puis il commence à lier amitié, donc il va leur faire la cuisine, et il commence à dire tiens voilà, on va te faire remonter un flingue, il va dire tiens voilà, on va te faire remonter un flingue les yeux bandés, ça. Alors en plus tu peux déceler des petits sourires au détour de scène, et quand tu vois le profit de ces acteurs là, tu sens que ce sont des gens qui... Enfin, tu sens qu'ils sont bien entendus aussi au tournage, et c'est pas vraiment une affaire de rôle, et après on passe à autre chose. Et franchement, le film, alors, qu'est-ce que ça vaut? C'est la question, hein, qu'est-ce que ça vaut par rapport aux autres films de Johnito? C'est dans la lignée, le fait que ce soit un polar Frenchy, à nos yeux, bon, vraiment, c'est... On a un regard biaisé.
Je cherche un fond sonore, au cas où Thomas n'est pas terminé, en fait. C'est pas évident. Trop présent. Oh, on va prendre celui-là, au cas où.
Américain, est-ce que c'est quelqu'un... comment vont-ils le voir? Est-ce que c'est quelqu'un qui cabotine? Non. Bon voilà, est-ce qu'ils vont être intéressés par le faciès, est-ce qu'ils vont être intéressés par le jeu d'acteur, par le personnage, on ne sait pas trop. Ouais, je me perds un peu dans mes notes. Oui, voilà.
ça m'arrive, mais je suis en régie d'habitude quand je perds.
Oui, donc voilà. Après, le truc qu'il faut savoir, c'est que le rôle avait auparavant été proposé à Alain Delon, puisque le gars s'appelle Costello, le même nom qu'il a dans Le Samouraï. Il faut dire que Le Samouraï de Melville a inspiré pas mal de réalisateurs, dont Jim Jarmusch, donc il s'est servi pour son Ghost Dog, et surtout John Woo, hein, puisque aussi dans The Killer, le personnage s'appelle Jeff, personnage de Chow Yun-Fat, comme Alain Delon. Là, dans le film de Johnito, vous l'avez vu à l'abondance, vous le verrez dans le film, il a le look d'Alain Delon, mais tu sens que tout transpire Alain Delon dans le rôle. Et t'as l'ombre d'Alain Delon à chaque détour de plante. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment dommage qu'Alain Delon ait refusé le rôle, puisque c'est lui qui l'a refusé, c'est pas pour des contraintes de planning puisqu'il tourne plus.
Ouais.
C'est vraiment dommage. Johnny Hallyday est loin de démériter, il est efficace,
Mais Johnny n'en est pas à son premier coup d'essai, loin de là.
Il a fait des westerns.
Il faut reconnaître quand même que Johnny a tourné avec des grands réalisateurs et c'est toujours plus ou moins bien démerdé, quoi.
Tu parlais effectivement qu'il était passé un peu au second plan dans le film de Johnito. Ça rappelle exactement comme dans L'Homme du Train de Patrice Lecomte, où évidemment il est mis en relais. parce que son acolyte, c'est Jean Rochefort, évidemment. Et sinon, bon, il n'a pas fait que des bons films. Je me souviens de Terminus qui n'était pas.
Ouais, bon, d'accord, ok. Bon, enfin, bon, Terminus, c'est pas que Johnny, quoi. Ouais. Attends, ouais.
Et c'est vrai que je disais, il est loin de démériter, mais par rapport au fait que le rôle était auparavant destiné à Alain Delon, tu le donnes à un autre acteur pour un rôle qui n'est pas fait pour lui. C'est vrai que ça le fait pas trop. Là, ça le fait quand même. Mm-hmm. Mais c'est vrai que pendant tout le film, tu te dis, oh putain, avec Alain Delon, la mythologie de Melville, la mythologie de Thau qui sont réunies, ça aurait fait le film en or massif avec les deux cinéphiles qui se rencontrent. Là, bon voilà, qu'est-ce que tu peux dire, voilà, t'as l'homme de Godard peut-être. Je sais pas, non, franchement. Là, c'est la grosse déception, mais voilà, après, ça reste tout à fait regardable, on vous rassure. Voilà. La petite anecdote, il a annoncé sur le plateau du Grand Journal de Denisot à Cannes, il disait que Alain Delon s'était fait offrir un flingue, le flingue du film, avec son, parce qu'en fait il faut savoir que dans le film, donc, comme il met au feutre noir pas mal de choses, des mémos, mm-hmm. Donc ils ont repris le principe, et donc l'équipe de Johnny Thau a envoyé un flingue en cadeau à Alain Delon pendant qu'il préparait le film avec Alain dessus, et en fait Alain Delon a retrouvé
un vrai flingue.
Bah le vrai flingue du film, enfin un modèle comparable en tout cas, déchargé évidemment. Donc Alain Delon a retourné le flingue et a marqué Johnny dessus. Il a dit, voilà, de Costello à Costello, il a refilé le cadeau puisqu'il avait refusé le rôle. Donc voilà.
D'accord. Ah, pas mal.
Oui.
Pas mal.
Et bon, en tout
respect
cas.
Respect pour une fois.
En tout cas, voilà, c'est un polar de Thau. On peut pas dire qu'il soit raté. Il est vraiment dans la lignée de ce qu'il a fait, des films qu'on aime, qu'il a fait auparavant. Le concept du Memento, c'est pas le premier coup d'essai où les films hongkongais pompent allègrement tout ce qui a été fait à Hollywood, hein, et à chaque fois ils s'en sortent quand même plutôt pas mal, puisque ils proposent un éclairage intéressant avec tout leur savoir-faire nerveux et tout. Au point de vue de la mise en scène, tu te dis que Johnny Thau, ça fait 90 films que tu vois de lui, et tu te dis, mais c'est bon, il peut plus rien faire de nouveau. Il arrive à te sortir encore des gunfights dans une déchetterie au ralenti avec des et pas le ralenti de genou, c'est son ralenti à lui avec des papiers
c'est
qui
pas
volent
la vitesse
avec des papiers qui volent de partout. Tu dis mais à chaque fois que tu vois un film de Thau, tu dis mais comment ça a pas été fait avant, tellement l'idée est bien. Et justement le fait que ces films soient un peu vidés de leur substance pour justement faire l'éclairage sur le concept qui va étirer jusqu'à la moelle, fait que ce sont ces petits moments de grâce qui sont dont tu te rappelles après, plusieurs jours après, tu dis ouais, voilà, c'est un peu comme les grands films d'action où tous les films d'action sont orchestrés autour de grandes scènes comme le Mission Impossible avec la scène où suspendu un fil. Si le reste n'était pas aussi vide et un peu en deçà, tu te rappellerais pas de cette scène. Et donc là, c'est pareil. C'est pour les amateurs de Johnny Thau, allez-y. Hein. Franchement, c'est pas dénaturé. Le fait que ce soit un polar franchise n'enlève rien au mérite du film. C'est encore du très bon. Donc Vengeance de Johnny Thau avec Johnny Hallyday, Anthony Wong, Lam Suet, Simon Yam et Sylvie Testu, et qui est sorti il y a 3 jours.
Supplément Week-end 199. Petit break musical. Oui, Duce ? Non, t'avais quelque chose à dire ? Tu me faisais
signe ? Ouais, non, ben, on pourrait parler, comme on était dans Anthony Wong, là, on pourrait parler vite fait de la sortie du nouveau numéro de Mad Movies avec Impact. Et
il m'a arrêté juste à temps, j'allais mettre une interruption musicale en fait.
Bon. Là, la deuxième partie, alors dans la première partie, Anthony Wong qui disait qu'il n'aimait pas travailler avec John Woo. Oui, je n'aime pas travailler avec lui, je pense que Johnny Thau est le meilleur, il est bien meilleur que lui. Oui, il ne connaît rien aux acteurs, demandez aux comédiens de volte-face. Non, Nicolas Cage.
Attends. Au comédien, au singulier. Et là, le journaliste lui rétorque John Travolta. Et là, Anthony Wong lui rétorque non, Nicolas Cage.
Voilà, bon, il n'y a pas que ça, mais enfin bon, il a son franc-parler. Et en plus, ce qui est vachement agréable, hein, c'est que c'est pas un con du tout. Dans la deuxième partie, il revient un petit peu sur sa carrière aux États-Unis. Ouais, la Momie 3.
Ouais, sa carrière, son film.
Alors, alors là, c'est assez rigolo, quoi. Où il déclare, là-bas, le système est trop compliqué, il n'y a pas d'espace pour vous si vous souhaitez modifier votre ligne de dialogue. Il faut d'abord demander au producteur qui va lui-même demander à un autre producteur, puis ils vont organiser un meeting. Tout est figé, il n'y a pas de créativité.
Et un focus group.
Alors, l'intervieweur lui dit pas intéressé par Hollywood, donc si ça m'intéresse pour l'argent. Voilà, ça c'est Anthony Wong avec plein de petites photos vachement sympathiques. Biscope, quoi. Alors là, Biscope. Là, je regrette que mon magnétophone, que mon magnétoscope soit bousillé parce que là, je voulais revoir justement Biscope. Il n'y a pas que l'interview de Anthony Wong, il y a bien entendu Impact, hein, c'est le cinéma d'action, donc il y a Vengeance de Johnny To, mais également tout un gros article sur Milky Way Image, à savoir la boîte de production que Johnny To a créée.
Milky Way, c'est la Voie Lactée en anglais.
Oui, c'est ça. Il y a également un petit article sur le prochain Sly.
The Expendables.
The Expendables qui a l'air bien carton, et aussi la série qui a l'air de bien cartonner, en fait.
Alors vous avez sûrement remarqué quand même que de temps à autre ça grésillait. C'est en fait ce que j'entends vraiment dans le casque. C'est suite à l'entrée en fait dans le baladeur. Je crains que le son soit complètement saturé, que vous ayez paumé pas mal de trucs. Donc peut-être que je remonterai, je pense pas que je mettrai le programme en intégralité.
Risque de dépoter pas mal, donc tout ça c'est dans le numéro de Impact. Mais surtout, c'est bien entendu l'interview de Anthony Wong.
Ben Anthony Wong, je termine là-dessus, c'est quand même quelqu'un qui est super honnête, parce que c'est pas la première fois que j'entends parler d'argent dans une interview, parce que dans les bonus du film Final Affairs, il en parlait aussi, il disait que lui, on lui posait la question, qu'est-ce qui vous fait choisir un script ? Il disait, moi c'est l'argent. Et c'est d'habitude un truc qu'on ne dit pas du tout, et il dit, je m'explique, en fait...
C'est un truc qu'on ne dit pas du tout dans les sociétés occidentales, mais les Chinois, ils ont un autre rapport avec l'argent.
Et il explique pourquoi il dit ça, c'est il dit moi le fait qu'il y ait un gros budget sur un film, alors d'une part ça m'assure un salaire confortable pour savoir si j'ai passé une bonne année ou une mauvaise année, et deux c'est surtout un casting, un budget confortable m'assure qu'il y aura un casting mastodonte, et ça peut augurer d'un bon film. Voilà, c'est quand même, faut voir un peu ce qu'il y a caché derrière la réponse qui est faussement cynique.
Petit break, on va partir de Hong Kong, on va passer par Moscou avec Number in Moscow. Non, pas Number One.
Moscow.
Non, c'est pas ça. Non, par Portiched. JB gros naze.
J'ai rien dit.
Bon, t'es pas gros, ok. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu me dis là ?
Toi, tu vas le payer.
Oh, je vais le payer comment ?
Tu vas voir.
Oh. Voilà, parce que JB n'est pas au courant qu'on est en train d'enregistrer un making-of de ce qui se passe dans mon oreille.
Mais je suis au courant.
In the cerveau with Xavier. Voilà. Donc là, ça y est, c'est en train de s'échanger en fait les impacts. Oh, trop fort, beaucoup trop fort, beaucoup trop fort. Oh, oui. Les niveaux sonores n'étaient pas du tout équivalents. On va clôturer ici la première partie du podcast. J'initie un nouvel enregistrement. Oh, quoique non.
D'accord.
Quoique non. Je vais laisser parler.
Le Spirou, c'est Xavier ?
Ouais, il est pas mal. C'est assez étonnant de lire dans les interviews que Émile Bravo a en fait tout pompé sur un épisode de Spirou qu'avait fait Yann avec Chaland. Et Yann lui en veut à mort. Il faut pas, c'est pour ça qu'il ne faut pas dire que c'est une suite.
D'accord.
Parce qu'en fait, c'était le Groom Vert de Gris était censé être l'événement pour les 50 ans de Spirou en 89.
Quelqu'un veut ?
Moi, je prends le Groom si c'est possible.
Vas-y. Moi, j'en ai tellement à toi que je m'en sors plus là, donc je l'ai...
Bah, prends-le au cas où dans un sec, il est vraiment pas mal, hein. Ouais, il est flippant.
Par contre, la BD que t'as chroniqué sur le...
La BD que t'as chroniqué par contre sur les pirates, je veux bien que t'as taxé ce soir. Celle que tu voulais offrir à Sabrina.
Ah, Canoë B. Ouais.
Okay. Non, c'est moi qui l'ai.
Ah, d'accord. Bon, du sport quand tu veux.
Que j'ai même pas encore lu. J'ai commencé les deux premières pages et puis je me suis écroulé. Je me suis dit, oh putain.
Voilà, parce que on a fait l'anniversaire de Sabrina avant-hier. Ce soir, on fait celui de Chantal. Même si c'était exactement une semaine après. Et en fait, j'ai dit à Thomas que j'allais offrir Canoë B à Sabrina. Il se trouve qu'il est en rupture de stock. Donc je vais vous faire à la place de nos voisins les Yamada.
C'est pas une semaine après, c'est deux jours d'intervalle.
Non, on a fait les anniversaires une semaine après les vraies dates.
Ah, après les deux, d'accord. Tout à fait. Alors j'ai commencé à lire Cyborg 009, je m'attendais pas à ça. C'est
pas mal,
ça,
hein.
Tu sens l'esprit un peu old school, ce type de BD où...
C'est quoi ça?
Ouais, mais c'est quand même assez violent quand même.
C'est un des élèves de Tezuka qui a fait un truc beaucoup plus adolescent, jeune adulte, donc avec des gens qui sont kidnappés et qui deviennent des armes
début,
de guerre.
Et au début, quand ils vont chercher les mecs.
Oh, ah, c'est horrible!
Sur West Side Story?
Oui!
Oui!
Mais
Charles, ouais.
C'est les Jets et tout, et là. Putain,
ah, t'as tout! Là. Mais t'as, hein. C'est pas la seule référence justement cinématographique, c'est énorme! C'est une claque!
Wow.
C'est une claque.
En fait, ce qu'il y a de fort, c'est que c'est comme dans les BD Tezuka, c'est un style vraiment presque disneyen. Ouais. Enfin, Tezuka, ouais. Rond et tout. Et en fait, il te décrit qu'au départ, ils enlèvent des gens pour les transformer en cyborgs. Et quand ils enlèvent des gens, en fait, ils vont choisir des gens que personne ne regrettera. Ce qui fait que des gens qui ont perdu leur femme, qui ont tous leurs amis sont morts et tout. Et au début, t'as des personnages ronds et tout, et t'as que des meurtres.
C'est ça, hein.
Ah,
y a pas ça, de toute façon.
Okay. C'est un décalage qui est toujours bizarre quand
tu mets
Tezuka
le thème,
ou des élèves.
Policier habituel. The Missing Suitcase.
Par contre, au niveau scénario, ça m'a rappelé un peu les scénarios que je faisais quand j'avais 14 ans. Avec, allez, on va dire que c'est une base, et puis il y a des cyborgs et tout, et puis lui, il peut lancer des lasers. En fait, c'est exactement ça. Tu dis, oh,
ah, voilà, le bonheur, le bonheur. Le seul CD qui soit potable dans ce studio, c'est le CD1. Et quand j'appuie sur revenir en arrière, il avance.
Non, il veut pas. Il faut faire le tour.
Voilà, il faut faire le tour. Et
hop, 5 secondes et on repart.
Et après Portishead Number in Moscow, l'homme de l'ombre est arrivé. Avec son porte-document rempli de télé 7 jours, télé magazines et télé 14 blagues par semaine.
Télé Z.
Alors dis-moi du sport, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? On a eu les programmes télé des grandes chaînes américaines cette semaine. Hein.
Ouais.
Chuck saison 3, ouais. 24 saison 8.
Ouais, enfin dimanche, demain il n'y a pas de Chuck.
Oui.
Il n'y a pas de Chuck demain. Demain c'est Monaco, Grand Prix.
Je sais pas, je bois pas d'alcool.
Bon, ok. Est-ce que vous savez que dans le dernier épisode de Pokémon Jungle Fury, Wistikram, en plein combat contre Oursarin, mord l'épaule de Sacha?
Alors il est contaminé?
Non, je savais pas. Non, parce qu'il s'est calmé après.
Ah d'accord. Mais voilà. Pikachu n'a pas été mordu lui.
Non, mais Pikachu était également assez interloqué par le fait que Wistikram commence à s'attaquer à son dompteur.
D'accord. Voilà. Ce sont tes conseillers pour ta chronique, ils t'ont dit de mettre ça dedans.
Non, mais ça m'a étonné quand même.
Pas mal.
Alors,
la semaine prochaine, vous aurez la suite des aventures de Pokémon vues par Disney
ou de Sonic X. Alors, parlons un petit peu de Sherlock Holmes à présent. Alors, tout d'abord.
Alors, évidemment, s'il parle Sherlock Holmes, c'est pas du tout le bon fond sonore qu'il me faut. Je ne sais pas lequel prendre du coup.
Quelques petits indices et tout quoi. Alors, il y en avait un dont j'avais pas trop fait le rapprochement. En fait, c'est vrai que si on prononce à l'anglaise, c'est tout à fait logique. Hein, Dr House, la maison, et Holmes, en anglais, Holmes.
Oula, c'est tiré par les cheveux.
Ah, ouais, si. Hein. Bon, bien entendu, alors.
Mais d'ailleurs, dans un épisode, il y a.
Voilà, je vais couper votre enregistrement. On part de la suite, donc je ferai le raccord avec l'enregistrement normal. À toutes.